La foi, c'est la réalité de ce qu'on espère, l'attestation des choses qu'on ne voit pas.
Maintenant, Annick et Valentine, si vous voulez vous approcher pour nous introduire dans le sujet de ce matin.
Jonas se leva, mais pour fuir à Tarsis, hors de la présence du Seigneur. Il descendit à Jaffa, y trouva un navire construit pour aller à Tarsis. Il l'affréta, s'embarqua pour se faire conduire par l'équipage à Tarsis, hors de la présence du Seigneur. Mais le Seigneur lança sur la mer un vent violent. Aussitôt, la mer se déchaîna, à tel point que le navire menaçait de se briser. Les marins, saisis de peur, appelèrent au secours, chacun s'adressant à son Dieu, et pour s'alléger, ils lancèrent à la mer tous les objets qui se trouvaient à bord. Quant à Jonas, retiré au fond du vaisseau, il s'était couché et dormait profondément. Alors le capitaine s'approcha de lui et lui dit « Eh, quoi, tu dors ? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être ce Dieu-là songera-t-il à nous. Songera-t-il à nous et nous ne périrons pas. » Puis ils se dirent entre eux, « Venez, consultons les sorts pour connaître les responsables du malheur qui nous frappe. » Ils consultèrent les sorts qui désignèrent Jonas. Ils lui dirent donc, « Fais-nous savoir quelle est ta mission, d'où viens-tu, de quel pays es-tu, quelle est ta nationalité ?»
Les passages que je vais vous lire sont dans Agée, chapitre 1er, premièrement les versets 4 et 5. Est-ce le moment pour vous d'habiter vos maisons lambrissées alors que cette maison-ci est en ruine? Et maintenant, ainsi parle le Seigneur, le Tout-Puissant. Réfléchissez bien à quoi vous êtes arrivés. Alors Zorobabel, fils de Shaltiel, et Josué, fils de Yehoshadak, le grand prêtre, et tout le reste du peuple écoutaient à la voix du Seigneur, leur Dieu, et les paroles d'Agée le prophète. Selon la mission que lui avait donnée le Seigneur, leur Dieu, et le peuple, éprouva de la crainte devant le Seigneur, et Agée, le messager du Seigneur, parla selon le message reçu du Seigneur pour le peuple. « Je suis avec vous, oracle du Seigneur. » Ensuite, chapitre 10, les versets 5 et 6. Ces 12, Jésus les envoya en mission avec les instructions suivantes. Ne prenez pas le chemin des païens et n'entrez pas dans une ville de Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Le chapitre 13, le verset 4. Se trouvant ainsi envoyé en mission par le Saint-Esprit, Barnabas et Saul descendirent à Séleucie, d'où ils firent voile vers Chypre. Et ensuite, le chapitre 2, les versets 12 à 16. Je suis allé à Troas pour y annoncer la bonne nouvelle du Christ. J'y ai trouvé, grâce au Seigneur, des portes largement ouvertes à mon activité. Cependant, je n'ai pas eu l'esprit tranquille parce que je n'y avais pas retrouvé mon frère Tite. C'est pourquoi j'ai pris congé des croyants et je suis parti vers la Macédoine. Je ne puis que remercier Dieu. Il nous associe toujours au cortège triomphal du Christ par notre union avec lui et il se sert de nous pour répandre en tout lieu comme un parfum la connaissance du Christ. Oui, nous sommes pour Dieu comme le parfum du Christ parmi ceux qui sont sur la voie du salut et parmi ceux qui sont sur la voie de la perdition. Pour les uns, c'est une odeur de mort qui les mène à la mort. Pour les autres, c'est une odeur de vie qui les conduit à la vie. Et qui donc est la hauteur d'une telle tâche?
Comme vous l'avez compris, nous commençons aujourd'hui une semaine de prière. Et le thème qui nous est proposé, et ceci pour les églises du monde entier, c'est celui de la mission de Dieu. Alors, pour introduire cette méditation, je vous invite à suivre avec moi la lecture de la fin de l'évangile de Matthieu. Ce sont les derniers versets de Matthieu, ce sont des paroles de Jésus. Nous lisons au chapitre 28 et au verset 18 et jusqu'à la fin. Jésus s'approcha et leur dit « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre ». Allez, faites faites des gens de toutes les nations des disciples, baptisez-les pour le nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai commandé. Quant à moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Peut-être avez-vous remarqué que dans ce texte, qui conclut l'évangile selon Matthieu, le mot « mission » n'est pas prononcé. Dans les lectures qui vous ont été faites et qui empruntaient des lectures à deux prophètes de l'Ancien Testament, à l'Évangile, aux Actes et à une épître de Paul, on trouvait à chaque fois dans cette version, c'était la Tobe, le mot « mission ». Mais ici, le mot « mission » n'est pas prononcé. Mais si le mot « mission » n'est pas prononcé, le fond, l'essence même de ce texte, dans la parole pleine d'autorité, mais pleine d'amour aussi de Jésus, c'est vraiment le sens d'une mission que Jésus, que Dieu, à travers lui, confie à tous les membres, à son Église. Le mot d'Église n'est pas prononcé non plus, mais on comprend bien que l'Église et la mission, c'est les deux réalités non dites, mais qui sont le fondement de ce texte. Alors, cette mission, ici, nous la voyons comme une mission qui est d'abord universelle à toute nation. Et puis, c'est une mission qui est durable jusqu'à la fin des temps. Et puis, et donc il y a une connotation tout à fait adventiste dans le sens étymologique du mot, le retour de Jésus. C'est de cette mission que je voudrais vous parler pendant quelques instants ce matin. Je le ferai en deux temps. Dans un premier temps, je vais essayer de découvrir, d'approfondir la signification de cette expression qu'on ne trouve pas dans la Bible, qui s'appelle la mission de Dieu. Mais la réalité se fait dans la Bible, comme j'essaierai de le montrer. Quelles sont les significations profondes de ces termes « mission de Dieu » ? Puis, dans un deuxième temps, plus rapide, parce que nous voudrions réserver un temps pour la prière, eh bien, quels sont les éléments constitutifs de cette mission ? Alors, la notion de mission. Tout d'abord, le vocabulaire. Alors, dans les textes qui ont été lus ce matin, dans l'Ancien Testament, dans les prophètes, dans la Bible, dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile, les Actes, les Épîtres de Paul, eh bien, il y a plusieurs vocabulaires. Ce mot « mission » est relativement rare dans la Bible. Si j'ai choisi les lectures dans le livre, dans la traduction de la Tobe, c'est parce que la Tobe emploie plus fréquemment que d'autres versions, comme la version secondante, le terme de « mission ». Comme c'était notre thème, il m'a semblé que c'était judicieux de suivre cette version-là. Alors, le mot « mission » est relativement rare en tant que mot. Mais les cinq textes, on aurait pu les multiplier, qui essayent de couvrir un large éventail chronologique, eh bien, montrent que la notion de mission, même si elle n'est pas employée dans son vocabulaire, c'est vraiment l'essentiel de la trame biblique. C'est elle le fait omniprésent dans l'Écriture. Si, comme je vous le suggère, vous lisez attentivement les lectures qui sont préparées dans la revue Adventist World, eh bien, vous verrez que la communication qui est pour aujourd'hui, qui est de la plume du président de notre conférence générale, eh bien, reprend, balaye avec de nombreux exemples tout au long de la Bible, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, cette notion de mission qui est confiée à chacun d'entre nous, qui est confiée à son peuple, qui est confiée à l'Église, qui est confiée à la communauté. Alors, dans l'Ancien Testament, très rapidement, il y a cinq mots qui peuvent être traduits par le mot de mission. Je ne vais pas tous les mentionner, il y en a un qui est plus fréquent et plus courant que d'autres, c'est le mot de davar ou daba, qui au départ signifie parole. Quand on introduit les 10 commandements, vous pourrez demander des détails à Bernard Sauvagnat là-dessus, les 10 paroles, eh bien c'est les 10 dabar de Dieu, les paroles. Et ces paroles peuvent être traduites aussi par commandement, par ordonnance, par acte, par travail, par tâche, par instruction, par charge. Charge au sens d'une charge que l'on confie à quelqu'un. Et puis, il y a d'autres mots qui expriment un peu les mêmes idées. Donc la mission, c'est vraiment un envoi, c'est une parole, c'est une vocation à laquelle Dieu confie son peuple de transmettre une force, de transmettre un message, de transmettre une vérité, de transmettre une vision et de l'accomplir. Dans le Nouveau Testament, on trouve également trois familles verbales qui peuvent donner occasion du mot de mission. Il y a un verbe, propemto, peu importe, qui signifie envoyer, qui signifie accompagner. Et puis, le mot le plus courant, eh bien, c'est un mot courant en français, mais qui n'est pas un mot français. C'est le mot apôtre. Vous savez que le mot apôtre est une transcription du mot grec. Hein, Dieu a choisi des apôtres, apostolos. On aurait très bien pu dire traduire. Et traduire le mot grec « apostolos » par un mot français « envoyé ». Et puis, les traducteurs n'ont pas traduit, mais ils ont transcrit, c'est-à-dire que quand on dit « apôtre », peu ou prou, on parle grec. Hein, et « envoyé », c'est le verbe « apostolos », c'est « apostello », pardon. Il y a l'apostolos qui est l'apôtre, et puis il y a l'apostolé qui est l'apostolat, qui est la mission. Et quelquefois, ce mot est traduit par « mission ». Autrement dit, la mission, c'est bien un envoi. Et à ce point de vue-là, chaque membre d'Église est un apôtre. Nous ne faisons pas partie des 12 apôtres, bien sûr, ce n'est pas dans ce sens-là fort. Mais nous sommes des envoyés, nous sommes des missionnés ou des missionnaires. Par exemple, l'apôtre Paul, au début de l'Épître aux Romains, c'est un texte connu, il se dit apôtre en vertu de l'appel qui était Jésus-Christ. Un peu plus loin, dans l'Épître aux Corinthiens, c'est au chapitre 9, verset 2, il parle du sceau de son apostolat. Et puis dans l'Épître aux Galates, il dit, eh bien cet apostolat, il a été confié à Pierre pour les circoncis, et puis il m'a été confié pour les non-juifs. On trouve donc cette notion liée au mot apôtre, ou à la fonction qui est l'apostolat, qui est la mission. Ce mot mission est d'ailleurs très... Ah puis alors il y a aussi un autre mot qui est intéressant, que je mentionne simplement pour mémoire, souvent est traduit par le mot logos, et quelquefois traduit par mission. Quand on prend une concordance, alors le mot logos, c'est le mot parole. Quand au début de l'évangile de Jean, on dit au commencement était la parole, c'est au commencement le logos. Logos, ça veut dire le verbe, ça veut dire la parole, ça veut dire beaucoup de choses. Si vous aviez la curiosité de prendre une concordance, par exemple la concordance de la Table, eh bien ce mot logos est traduit en français par 57 mots différents. C'est dire qu'il peut avoir un grand nombre de visions, de significations. Les principaux, c'est parole, c'est discours. Vous savez que beaucoup de sciences sont la théologie, la psychologie, l'anthropologie. C'est des discours systématiques sur Dieu, la théologie, sur l'homme, l'anthropologie, etc. Donc le mot logos a donné cette notion de discours systématisé. Il est traduit également par ordre, ordonnance, et puis aussi par mission. Donc vous voyez que même si l'expression mission de Dieu n'est pas formellement dans la Bible, cette notion-là est vraiment une notion qui, on peut dire, résume de nombreux aspects de la fonction que Dieu confie à l'homme. Alors, maintenant, parlons un petit peu plus attentivement de la mission de Dieu. Il me semble que ce que je vous ai dit très rapidement fait qu'il me semble légitime, bibliquement et théologiquement, c'est théologiquement correct, me semble-t-il, de parler de l'expression « la mission de Dieu ». Qu'est-ce que cela veut dire ? Alors, « mission de Dieu », grammaticalement, je vais vous faire travailler, mais c'est une grammaire élémentaire, ne vous inquiétez pas. « Mission de Dieu », c'est un complément de nom. Il se trouve qu'en français, le complément de nom a plusieurs sens possibles. Pour un exemple tout à fait banal, je suis en train hier, j'étais en train de lire un livre, mon épouse me dit « qu'est-ce que tu lis ?» Je lui dis, c'est fictif ce que je vous raconte, je lis le livre de Gaston. Alors, J'ai pris Gaston parce que c'est un prénom un peu rare. J'espère qu'il n'y a pas de Gaston ici. Je ne voulais viser personne. Bon, je lis le livre de Gaston. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça peut vouloir dire, je lis le livre qui appartient à Gaston, mais que Gaston m'a prêté. Dans ce cas-là, le livre de Gaston exprime une appartenance. Ça peut dire aussi, Gaston m'a donné ce livre. Tu sais, il m'a donné. Mais c'est le livre de Gaston, qui vient de Gaston. Ça indique une origine. Et puis, si c'est un peu plus technique et que le Gaston en question, je l'appelle Gaston de manière un petit peu cavalière, mais il s'agit de Gaston Bachelard, qui est un éminent philosophe, qui a été professeur en Sorbonne, qui a écrit beaucoup d'ouvrages sur l'esprit scientifique, sur l'intuition et la découverte dans la fonction scientifique et dans la fonction poétique. Il a écrit un livre sur l'éloge de la rêverie. Alors, si je dis c'est le livre de Gaston, sous-entendu Bachelard, ça veut dire « il est l'auteur ». Vous voyez, donc, un complément de nom, hein, le livre de Gaston, a au moins trois sens. Son origine, l'auteur, le propriétaire, et puis son origine. Voilà. Alors, prenons maintenant quelques exemples bibliques. Si je dis expression biblique, la gloire de Dieu. Complément nom, gloire de Dieu. Il est bien évident que c'est Dieu qui est glorieux. Ici, l'expression, par son usage, par la réalité qu'elle envoie et par le contexte, montre très bien que ici, la gloire de Dieu, ça signifie la gloire qui appartient et qui est le propre de Dieu. Si je prends par un autre exemple la crainte de Dieu, est-ce que ça veut dire que Dieu est craintif? Absolument pas. C'est nous qui devons avoir une crainte, c'est-à-dire une attitude d'humilité, de respect. C'est pas la phobie de Dieu, c'est pas l'angoisse de Dieu. C'est une attitude de respect humble, hein, d'obéissance. Eh bien, c'est nous qui devons être craintifs de Dieu. Dieu n'est pas craintif. Donc vous voyez, deux expressions. La gloire de Dieu, la crainte de Dieu, c'est deux compléments de nom, mais ils doivent être lus de deux manières différentes. Et puis alors, si je prends une troisième expression, et je m'arrêterai là, l'amour de Dieu. Alors, est-ce que c'est l'amour que Dieu éprouve, ou est-ce que c'est l'amour que moi j'éprouve pour Dieu? Eh bien, ça peut être les deux choses. Il y a des textes où, manifestement, c'est Dieu qui nous aime. Par exemple, Romains 8, verset 33, être capable, hein, rien ne peut nous soustraire à l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. C'est manifestement l'amour que Dieu nous témoigne. Si un peu plus loin dans l'évangile, dans l'épître de Jean au chapitre 5, je lis « Aimer Dieu, c'est que nous gardions ses commandements ». L'amour de Dieu, c'est que nous gardons ses commandements. Ce livre, cette déclaration-là montre très bien par le contexte, c'est comment garder ses commandements, c'est que nous aimons Dieu. Autrement dit, l'expression « l'amour de Dieu », à la différence de l'expression « la gloire de Dieu » qui est univoque, à la différence de l'expression « la crainte de Dieu » qui est également univoque, dans l'expression « l'amour de Dieu », c'est il y a deux fonctions, il y a deux significations. Il en est de même, d'ailleurs, on pourrait montrer de même de la justice de Dieu, mais je ne vais pas m'attarder. Ça veut dire que la mission de Dieu, je crois que c'est tout à fait applicable, ça a les deux sens. Ça veut dire la mission que Dieu a prévue, qu'il nous confie, dont il est l'auteur. Mais ça veut dire aussi la mission qui est la nôtre et auquel nous sommes invités à participer, nous sommes invités à nous investir. Alors, cette ambiguïté de l'expression « la mission de Dieu » me semble être une richesse et un appel. La mission de Dieu, c'est d'abord la mission qui appartient à Dieu qui est la sienne, dont il est l'auteur, dont il est l'initiateur, et par le Saint-Esprit, l'acteur ou l'actant, si vous préférez. Cela nous donne une idée de l'importance, de la grandeur, de la beauté de cette action. Mais cette mission de Dieu, c'est aussi celle qu'il nous a confiée, c'est la nôtre. Et derrière cette affirmation, il y a la nécessité de notre investissement, la nécessité de notre responsabilité. Ça veut dire que nos plans, nos travaux, nos projets, nos motivations, nos méthodes, nos objectifs, nos buts ne sont pas nos buts égoïstes, personnels, mais que ce sont des attitudes qui doivent être mises dans la prière, dans la foi, qui doivent être remises entre les mains de Dieu, confiées par lui, inspirées par lui, afin que toutes ces choses, plans, travaux, projets, motivations, méthodes, actions, eh bien, ne soient pas le fruit de notre ego, de notre égoïsme, mais par le Saint-Esprit, que ce soit ceux de Dieu. En conséquence, et il me semble que c'est important, dans le cadre d'une semaine de prière, il nous faut accorder et accepter cette mission avec humilité, avec modestie, avec recherche d'une communion avec Dieu, d'une communion personnelle, d'une communion collective et enfin d'un engagement. Et il me semble que c'est le sens d'une semaine de prière, hein, que nos prières soient orientées vers cette recherche de la volonté de Dieu avec l'intention de le mettre en pratique dans toute la mesure de nos possibilités. Quelques éléments constitutifs de la mission de Dieu. Je voudrais dire tout d'abord que c'est impossible à développer en peu de temps, c'est une notion trop riche, ce serait trop long. Je sais que je dois être, contrairement à mes habitudes, aussi court que possible. Un inventaire, un approfondissement, ben je crois que nous le ferons au cours de ces jours. Nous avons 7 jours et 8 rencontres pour approfondir cela. Mais dans les grandes lignes, eh bien dans les grandes lignes, je pourrais dire que l'Église est par essence une Église missionnaire. Et ce n'est pas sans dessein que lorsqu'on a lu ce texte, un des textes fondateurs de l'Église où Jésus envoie à toutes les nations pour les enseigner, pour les baptiser au nom de Jésus, le mot d'Église n'est pas prononcé, mais c'est bien la fondation missionnaire de l'Église en tant que support, véhicule d'une mission. Et même si l'Église n'est pas mentionnée, même si la mission n'est pas mentionnée dans ce texte, ce sont les deux réalités fondamentales du texte que nous avons lu. Ce texte, vous avez remarqué, peut-être 2 volets, et ça me permettra simplement de brosser un tableau des éléments constitutifs de manière synthétique. Il y a tout d'abord une série d'actions à entreprendre. Allez, faites, baptisez, enseignez ce que je vous ai commandé. Il y a donc, si vous voulez, un volet visible qui s'inscrit dans des actions, dans des paroles, dans des comportements individuels ou collectifs. Et puis, il y a un deuxième volet. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça, c'est quelque chose que l'on ne voit pas à première vue. J'espère que le monde qui nous entoure peut discerner à travers nos personnes, à travers nos actions, à travers notre témoignage en tant que communauté, quelque chose du fait que Jésus est avec nous. Mais quelquefois, nous ne donnons pas toujours l'image qui permet de voir ça. Mais même dans le cas où on le fait, eh bien, c'est quand même une notion invisible. Mais cette notion invisible n'est pas secondaire pour autant, elle est prioritaire. Vous vous rappelez certainement dans notre mémoire collective de ce mot du renard au petit prince, l'essentiel ne se voit bien que par le cœur, parce que l'essentiel est invisible aux yeux. C'est l'autorité de Jésus, hein, Celui qui dit qu'il a autorité qui lui a été donnée sur le ciel et sur la terre, qui nous parle, qui nous motive, qui nous invite à cela. Je ne voudrais pas que le mot d'autorité vous choque trop. C'est pas du tout un autoritarisme. Le mot grec qui est employé exprime au contraire plutôt une force de liberté, une capacité de faire quelque chose qui est important. C'est cette autorité-là. Alors, c'est une autorité qui émane de l'être et qui permet l'action. Voilà le sens de l'autorité. Alors, cette autorité de Jésus, ce pouvoir de Jésus, cette motivation que l'Esprit de Dieu, que l'amour de Dieu manifesté en Jésus peut nous donner, eh bien, c'est vraiment important que ça soit avec nous tous les jours, pour que dans notre vie personnelle, intime, mais aussi dans ces manifestations, eh bien, ces actions que nous voulons entreprendre, le volet visible de faire telle et telle chose, eh bien, soit ancrée, soit nourrie, soit rendue féconde par une communion, par une foi qui vient du cœur, par une vie de prière. Quelques éléments de cette mission. J'emprunte ces éléments-là, et puis après je vais m'arrêter rapidement, à un homme qui s'appelle Hannes Wiehr, je ne sais pas si vous le connaissez, moi je ne le connaissais pas particulièrement, qui est coordinateur du réseau de missiologie évangélique pour l'Europe. Il est d'origine suisse, c'est un médecin qui est devenu théologien et spécialiste de missiologie. Il enseigne la missiologie à la faculté de Vaux-sur-Seine, pas loin d'ici, à Aix-en-Provence, à Bangui et à Prague. Et donc c'est un homme qui s'est penché sur la notion de mission. Il a écrit plusieurs livres sur le sujet, dont un Bible et mission. Alors, d'après ce théologien, eh bien, la mission consiste d'abord en un témoignage. Il renvoie, et j'y avais pensé aussi, à ce texte de l'Épître de Jacques, hein, la véritable religion, on pourrait dire la véritable mission, hein, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans l'affliction et à se préserver des souillures du monde. Le premier élément de témoignage, c'est le témoignage d'une vie qui est moralement droite, se préserver des souillures du monde, et qui est active dans la vie réelle, dans la vie concrète, en particulier dans le domaine de caritatif. Et puis, évidemment, c'est un service désintéressé et un service joyeux. C'est une tâche directe ou indirecte d'évangélisation. Et puis, et c'est le dernier point que je voudrais un petit peu développer, c'est une tâche qui est pour tous, sans exception. Il y a des charismes différents, il y a des talents différents, il y a des ministères différents, des fonctions différentes dans l'Église, des talents. Chacun peut et doit exercer ses talents dans cela. Mais indépendamment de tous ces talents, il y a une fonction générale de soutien de la mission. Les personnes âgées qui se sentent... J'en fais partie de ces personnes âgées, hein, quand on a passé la barre des 80, ben la vie est un peu plus dure que d'habitude. Mais alors même qu'on serait sur un lit incapable de marcher, eh bien, aux personnes qui se sentent plus capables de faire quelque chose d'actif, eh bien, il y a toujours ce travail important de la prière, de l'intercession. Personne ne se peut se disculper d'une fonction dans l'évangélisation. Alors, au l'autre bout de la chaîne, il y a les enfants. Hein. Voilà, je vais vous parler de Marie. J'ai essayé d'écouter cette histoire qui m'était destinée. Une petite fille, Marie, qui travaille bien à l'école. Hein. Eh bien, c'était sa mission et elle l'a bien accomplie. Hein. On peut aussi l'accomplir quand on est un peu moins dissipé. Mais enfin, c'est un petit peu plus difficile, c'est un peu plus... Voilà. Alors, entre les deux, eh bien, il y a tout le travail de l'Église, évidemment, il y a les départements, mais la mission la grande idée que je veux en fin de compte vous transmettre, c'est que la mission de l'Église, ce n'est pas seulement le travail du pasteur et le travail des anciens. C'est notre travail à tous, depuis le ministère d'intercession jusqu'à l'engagement dans des actions concrètes, quelles qu'elles soient, par lesquelles nous voulons exprimer notre service de Dieu, notre amour pour Dieu et permettre de partager avec d'autres les riches bénédictions dont nous avons, que nous avons eues. Alors, en conclusion, je voudrais simplement vous lire un texte de la première épître de Pierre, au chapitre 2, au verset 9. Pierre, dans ce texte-là, après avoir parlé de ceux qui sont sans foi parce qu'ils ont ils sont passés à côté de cette pierre, ils ont rejeté cette pierre qui devait être la pierre angulaire. Et à l'opposé, il dit, vous, au contraire, vous êtes une lignée choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple que Dieu s'est acquis pour que vous annonciez les hauts faits. Ça sera intéressant de s'arrêter sur le « haut fait ». Il y a dans ce mot-là un mot de vertu, « arrêter » en grec, « vertu », « force », « force morale » qui va dans le combat. Le mot a même été utilisé dans un contexte très, très guerrier. Hein. C'est donc une force qui agit et qui combat, et dans le cadre chrétien, qui combat contre le mal. Les « hauts faits » de celui qui vous a appelé des ténèbres à son étonnante, à sa merveilleuse lumière. Je répète, vous êtes une lignée choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple que Dieu s'est acquis afin que vous annonciez les hauts faits de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Frères et sœurs, puissions-nous, non pas du bout des lèvres, mais du fond du cœur, à haute et intelligible voix, dire « Oui ». Seigneur Jésus. Amen.